BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Il est 10h, c'est BFM Patrimoine qui vous ouvre ses portes. Merci de nous faire confiance jour après jour pour vous accompagner dans le monde de vos placements. Et on commence tout de suite par un survol de l'actualité éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est le tout nouveau produit phare d'Apple, baptisé Vision Pro. C'est un casque de réalité mixte qui se contrôle avec les yeux, les mains ou encore la voix. Il a été présenté hier lors de la conférence des développeurs au siège d'Apple à Cupertino en Californie. Il permet à l'utilisateur de superposer des éléments virtuels sur le monde réel avec différents degrés d'immersion afin de travailler, communiquer, jouer à des jeux vidéo ou encore regarder un film. Il sera vendu 3 500 $ en début d'année prochaine, d'abord aux États-Unis. 20 millions de dollars, c'est le montant de l'amende que doit payer Microsoft. C'est pour mettre fin à des poursuites de l'Agence américaine de protection des consommateurs. Elle reproche à Microsoft d'avoir collecté les données personnelles de mineurs via la plateforme de jeux Xbox entre 2015 et 2020 sans le consentement des parents. La bataille pour la présidence d'Atos est lancée. À 3 semaines de l'Assemblée Générale, son actionnaire, le Fonds Sycomore, demande le départ de Bertrand Meunier. Selon nos informations, il propose la nomination de Léo Apothécaire pour le remplacer. Mais l'ancien patron d'HP et de SAP n'est pas le bienvenu chez Atos, ayant été remercié à chaque fois un an, tout juste après son arrivée à la tête des deux entreprises. Écoutez Cyril Charlot, l'associé fondateur de Sycomore Asset Management. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Les prérogatives des actionnaires, c'est de décider de la composition du conseil. Ce conseil, force est de constater qu'il ne fait pas son travail, il ne prend pas ses responsabilités. Le bilan de l'entreprise depuis 3 ans est juste catastrophique. Nous estimons que la situation d'Atos est d'une telle gravité qu'il faut absolument faire quelque chose. Nous aurons pu simplement désinvestir, c'est-à-dire vendre nos titres, et passer à autre chose. Mais nous pensons qu'Atos peut se redresser.
AXA Romani, sa direction, Guillaume Bory, est nommé directeur général d'AXA France. Il en était jusqu'à présent le numéro 2 et remplace Patrick Cohen, qui devient, lui, le directeur général marché Europe et santé. Le groupe présente son nouveau plan stratégique en début d'année prochaine. Le trimestre anti-inflation est prolongé jusqu'à la fin de l'année, annonce de Bruno Le Maire hier soir. Le ministre de l'Économie félicite les distributeurs pour ce geste, mais dénonce en revanche l'impasse des négociations commerciales. Selon lui, certains industriels jouent la montre et il promet de publier les noms de ceux qui refusent de revenir à la table des négociations et de baisser les prix. C'est aujourd'hui la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dont les premiers décrets d'application ont été publiés dimanche au journal officiel. L'impact est très limité dans les transports. Le trafic est normal à la RATP, très peu perturbé à la SNCF. Des vols ont été annulé par précaution dans les principaux aéroports, 30% à Orly par exemple. Le gouvernement vise une entrée en vigueur de la loi le 1er septembre. Et puis en Allemagne, les commandes à l'industrie baissent de manière inattendue. En avril, elles reculent de 0,4% sur un mois, après une chute de près de 11% en mars. Les analystes tablaient sur une hausse de 3%. Cédric.
Merci Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, on file tout de suite se connecter avec les marchés Action.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on rejoint la Bourse de Paris, ou plus exactement le siège d'Euronext à La Défense, où l'on retrouve Antoine Larrigaudry qui, comme chaque matin, suit cette première heure de cotation. Quelle est la tonalité ce matin, Antoine ?
C'est laborieux. Franchement, c'est laborieux. On a commencé sur un repli et on se disait que le marché était peut-être en train de craquer et de rallier ses plus bas du mois de mai, à savoir les 7098 points. Et puis on se redresse là un petit peu. Donc on a réussi à raccrocher les 7200, 7207. On repasse très légèrement dans le vert à plus 0,09%. Tendance laborieuse aussi sur l'ensemble des places européennes. L'Eurostock 50, plus 0,03 et plus 0,13 pour le DAX à Francfort. Non, en fait, ce qui est en train de se passer sur les marchés boursiers, c'est qu'on est en train de se dire, oui, il y a pas mal d'indicateurs économiques qui sont plutôt bons. Il y a aussi la perspective du déplafonnement de la dette américaine. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il y a quand même des centaines de milliards de dollars d'obligations qui vont venir inonder le marché. Et ça, ça va un petit peu perturber l'ensemble des échanges. D'autant que là, on a un événement banque centrale qui n'était pas forcément attendu ce matin. C'est la Banque centrale australienne qui a décidé de relever son taux directeur de 25 points de base. Et ça, ce n'était pas forcément attendu. Donc, il y a eu pas mal de volatilité sur les taux hein, juste avant l'ouverture, entre 8 et 9 et juste après l'ouverture à 9h. Là, ça a tendance à se détendre un petit peu. On est repassé sous 2,9% pour la dette française à 2,87, 2,33 pour la dette allemande. Et puis, on est repassé sous 3,7% tiens, pour la dette américaine. Donc, les choses s'apaisent un petit peu et ça sent, ça a libéré un petit peu de potentiel sur les marchés. Mais l'autre facteur qui pèse, c'est la forte consolidation sur les prix du brut. C'est vrai que l'OPEP+, enfin, surtout l'Arabie Saoudite, a décidé d'abaisser ses quotas de production pour renchérir un petit peu les coûts du brut, hein, les propulser du côté des 80-90 dollars. Ça a eu un effet de très très court terme hier, c'est-à-dire qu'on est monté quasiment à 78 pour le baril de Brent de mer du Nord, mais là on redescend aussi sec du côté des 75, hein, 75-50 pour le baril de Brent de mer du Nord. Donc du coup, ça pèse sur les pétroliers. Les pétroliers, évidemment, sont des très fortes pondérations totales. Sur le CAC 40, perd 0,66% à 54,49 €. Puis à signaler aussi Technip Energy qui est en baisse hein, sur le SBF 120 ainsi que l'ensemble du secteur parapétrolier. Du côté des valeurs qui signent aussi des baisses marquées, des valeurs qui ont été un petit peu atteintes par la volatilité autour des taux d'intérêt, les valeurs de croissance, la techno notamment, Capgemini recule de 0,96% à 165,15 €. On a également d'autres valeurs un petit peu plus industrielles, Stellantis moins 0,76%, on est à 14,69 €. On a aussi le secteur bancaire qui est peut-être aussi un petit peu victime de toute cette volatilité autour des taux, Crédit Agricole en particulier qui perd 0,18% à 10,81 €. Sinon à la hausse, on s'est replié sur des valeurs sûres plutôt. Publicis plus 1,92 € à 71,26 €. Veolia plus 0,57 € à 28,21 €. Noté Pernod Ricard aussi plus 0,95 € à 201,10 €. On a même Rémy Cointreau qui est en tête des progressions du SBF 120 plus 2,13 € 141,60 €. Le CAC donc plus 0,06% est à 7,205 €. Et du côté de l'euro face au dollar, on réussit à raccrocher 1,07 13 face à la devise américaine. Cédric.
Antoine Larrigauderie qui chaque matin nous accueille sur cette mezzanine de la salle de contrôle du CAC à la Défense pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Merci Antoine. Tout de suite, on reste connecté au marché actions et on explore la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et notre guide ce matin dans la cote, c'est Charles de Sivry. Bonjour Charles. Vous nous entendez, Charles ?
Oui, très bien.
Depuis Indépendance AM, merci d'être au rendez-vous. Oui, on vous entend. Vous nous parlez ce matin de S2I.
S2I, oui, société de services informatiques, pas très connue, mais pourtant une très belle société. J'aimerais vous en parler pour plusieurs raisons ce matin. D'abord parce que c'est une entreprise qui se porte très très bien, qui nous semble être un très bon investissement. Puisqu'on a affaire à une entreprise très très rentable et qui s'offre à un prix tout à fait raisonnable. Ensuite, elle publie ses résultats annuels ce soir après clôture et nous donnera une réunion demain pour présenter ses résultats annuels. Et ensuite, c'est une société que nous avons en portefeuille chez Indépendance depuis très longtemps, depuis juin 2012. Donc ça fait 11 ans et nous en sommes très contents puisque depuis. Vous m'entendez ?
Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler brièvement quel est le périmètre de la boîte ?
Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est une société de services informatiques qui a été créée en 1979, qui a pour but en fait d'accompagner très simplement les entreprises dans l'intégration des nouvelles technologies, hein, de procédés, de méthodes de management dans l'innovation. Et elle s'adresse à différents secteurs. Son premier secteur, c'est l'aéronautique et spatiale pour un peu plus de 20% de son chiffre d'affaires. Le secteur banque-assurance pour 20%. Secteur qui investit beaucoup hein, dans les nouvelles technologies. Télécom et médias, dans l'énergie, dans la santé, dans le transport, etc. C'est 10 500 collaborateurs aujourd'hui. Ils ont passé le milliard de chiffre d'affaires 2022, puisqu'ils ont publié en mai dernier leur chiffre d'affaires annuel. C'était une croissance organique de plus de 20%. Ils font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à hors de France. Ils ont essentiellement des activités dans l'Est de l'Europe, notamment en Pologne, qui marche très très bien. Mais ils sont aussi en Roumanie, où il y a de gros besoins. Voilà. Sinon, l'autre moitié du chiffre d'affaires, donc petite moitié, c'est en France. et 20% en Île-de-France. Et après, ils ont plusieurs agences réparties un peu partout en France, comme à Toulouse, par exemple, pour travailler, notamment pour Airbus.
Voilà donc pour le portrait brièvement dressé. Vous nous avez rappelé au début de votre propos que c'est un investissement historique chez Indépendance. Donc vous connaissez particulièrement bien cette boîte. C'est d'ailleurs un des boosters de votre fonds.
Oui, tout à fait. C'est la première ligne aujourd'hui du fonds principal, du France Mall, et ce depuis longtemps. Écoutez, depuis ça cotait 6,15 € quand Indépendance l'a acheté en juin 2012. On cote aujourd'hui un peu moins de 51 €. La valorisation nous semble tout à fait raisonnable. C'est pas un prix auquel on achèterait en masse, si je puis dire, aujourd'hui, parce que ça se paye plus de 10 fois le résultat net. Et or, on n'aime pas acheter plus de 10 fois le résultat net. Mais on est sur un multiple un PER pour les résultats 2023 de l'ordre de 12-13 fois. Donc on n'est pas non plus sur des niveaux très très élevés. À titre de comparaison, pour parler de sociétés qui sont plus connues dans le secteur auxquelles on pourrait comparer S2I, des entreprises comme Alten ou Capgemini se payent 18 fois le résultat net.
D'accord.
Alors que S2I se paye moins de 13 fois.
Voilà. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait une publication dans l'air. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement pour cette publication ?
Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Je ne sais pas. En tout cas, on attend une bonne rentabilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise cette année. La rentabilité des fonds propres, en moyenne sur 8 ans, était de plus de 19%. On attend une rentabilité des fonds propres de l'ordre de 22-23% pour l'exercice qu'ils vont publier ce soir. À titre de comparaison, encore une fois, c'est important, c'est intéressant. En tout cas, c'est 19% de rentabilité des fonds propres en moyenne sur 8 ans. Alten, c'est 16%. Capgemini, qui est plus connu, qui est pas directement comparable, c'est beaucoup plus gros évidemment, mais c'est 13%. Donc on voit pas de raison qu'S2I, qui est une entreprise très rentable, il y a absolument pas de dette, qui génère beaucoup de trésorerie, soit autant peu valorisée par rapport à des comparables comme Alten ou Capgemini. Beaucoup plus gros. S2I, c'est 10 000 employés. Alten, c'est un peu plus de 50 000. Capgemini, ça doit être 350 000 ou plus. Voilà. Donc, on ne voit pas de raison valable.
Ouais, du coup, vous nous parliez un petit peu du cours du jour, enfin du moment, entre guillemets.
Oui.
Et nous, c'est vrai qu'on essaye chaque matin d'avoir, sinon une recommandation, du moins une prise de température de ce parcours, de ce niveau de valorisation. Ça veut dire aujourd'hui, vous seriez plus tout à fait acheteur, mais quoi, à renforcer quand même pour quelqu'un qui en aurait déjà en portefeuille. Comment vous positionnez ?
Depuis 2012, donc ça fait longtemps, c'est la première ligne du fonds France. On conserve gentiment, puisque les multiples nous semblent tout à fait raisonnables. Nous, on veut un fonds qui soit décoté tout le temps de plus de 30% par rapport à son indice de référence. S2I, si j'appliquais le multiple de Capgemini ou d'Alten à 18 fois le résultat net, S2I se valoriserait raisonnablement plus de 70 € par action, on est à 50 €. Donc on maintient tranquillement, si je puis dire, notre investissement dans une entreprise très rentable, très bien gérée, et qui se développe de façon très rentable.
Merci beaucoup Charles de Civry, donc depuis Indépendance AM, pour ce focus proposé ce matin sur S2I.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et on rejoint Irina Topacere. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous depuis AXA IM. Alors, on a peu de choses dans l'agenda conjoncturel et macroéconomique cette semaine. C'est plutôt calme. On va donc tâcher de tirer profit de ce moment de répit pour regarder vivre notre planète économique en s'intéressant aux indices PMI qui ont été publiés ces dernières heures. Je dis ces dernières heures au plus large parce que entre la fin de la semaine dernière et hier, on a eu effectivement une avalanche de PMI. On va donc essayer de faire un petit panorama. Commençons par les États-Unis, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça nous donne ?
En fait, oui, je pense que commençons par dire que souvent les PMI, donc on les regarde très près pour essayer de déceler dans les détails de cette enquête des mouvements en particulier, des tendances particulières s'ancrées, mais généralement difficile d'utiliser cette série d'enquêtes pour prévoir très justement la croissance économique des pays. Donc un petit bémol d'abord, parce qu'il faut faire attention avec ces enquêtes-là. Mais on les regarde. Enfin, on a vu en plus pendant la pandémie qu'elles étaient complètement pas fiables là-dedans. Hein, donc il faut qu'on soit très attentif là-dessus. Et puis dans la manière que c'est construit, ça peut induire en erreur. Hein, notamment par exemple les temps de livraison qui sont pris à l'envers dans l'enquête parce que ça parlerait de la demande et pas nécessairement des problèmes d'offre qu'on a aujourd'hui. Donc vous voyez, donc on est attentif là-dessus. Mais j'ai envie de dire que sur les PMI dans leur globalité dans le monde, le message général reste quand même le même. C'est-à-dire une résilience dans le secteur des services face à une faiblesse du secteur manufacturier. Et ça, c'est quelque chose quand même assez cohérent un peu partout. Aussi, un peu partout, on relève, si vous voulez, que les coûts des inputs des entreprises baissent. Donc ça, c'est bien aussi pour ce qui va nous amener à réfléchir sur l'inflation. Et en même temps, les temps de livraison, que je mentionnais tout à l'heure, se raccourcissent. Donc, là, on fait référence effectivement à tous ces goulots d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement qui se résorbent. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais après, quand vous regardez par pays, vous allez voir que des choses peuvent être assez teintées. Par exemple, les PMI aux États-Unis des services étaient plutôt forts, en Chine, en Inde, au Japon aussi, contrairement à l'Europe par exemple. Mais l'ISM, l'autre enquête des services aux États-Unis, a été plutôt de facture mauvaise. Là, vous avez eu toutes les composantes de cette enquête qui se détérioraient, inclusivement l'emploi, inclusivement les commandes. Donc, attentif un petit peu à lire tout ça. Et j'ai envie de dire, même en Chine, vous allez voir, il y a deux enquêtes en Chine. C'est le NBS et le Caixin. Donc, deux enquêtes qui ont un autre focus. Hein. Une est plus large sur 3000 entreprises, l'autre plutôt sur 500, 600 entreprises. Donc, c'est pas le même. Une se prend plutôt le maillon des moyennes entreprises, l'autre plutôt des grandes entreprises nationales. Et là encore, on a eu une enquête qui monte et l'autre qui descend. Donc, on est attentif un petit peu à ne pas trop tirer des conclusions, mais regarder, essayer de déceler des tendances de long terme. Encore une fois, je trouve que la résilience des services est plutôt là par rapport à un secteur manufacturier en peine.
Voilà donc pour cette rive-là. Et si on prend la température aussi chez nous, qu'est-ce qu'on en dit ?
Alors, chez nous, là, le secteur manufacturier était plutôt faible. On va dire qu'il a été peut-être validé par exemple, les données des commandes allemandes qu'on vient d'avoir ce matin, qui étaient en large baisse. Mais là encore, c'est pas les commandes domestiques, c'est plutôt les commandes étrangères, hein, enfin les commandes à l'étranger qui s'affaiblissent. Je pense que effectivement, si on s'extrait d'une enquête, on ouvre un petit peu le panorama. Le sujet aujourd'hui en Europe, c'est de comprendre donc. Si ce ralentissement cyclique se met en place de manière conséquente et que ce ralentissement cyclique, en quelque sorte souhaitable, serait là pour calmer les ardeurs inflationnistes. Vous avez eu la semaine dernière, nous avons eu donc les données d'inflation en zone euro qui ont été plutôt de très bonnes factures. En quelque sorte, vous allez me dire, ça vient contredire un petit peu que je vous raconte toutes les semaines, où on imagine en fait de notre part une BCE qui va remonter les taux au moins encore deux fois dans ce cycle présent. Alors l'inflation, elle a largement ralenti de 7% à 6,1%. Elle était attendue à 6,3%, donc largement mieux que les anticipations de marché, le consensus. Tout ceci grâce à des forces exogènes, certes, hein, l'énergie, les prix des denrées alimentaires qui continuent de tirer fort sur l'inflation à la baisse. Enfin bon, quand on regarde l'inflation sous-jacente, là encore, une très bonne nouvelle. L'inflation sous-jacente ralentit de 5,6% à 5,3%, là encore mieux que le consensus. Et quand on regarde effectivement aussi bien l'inflation dans les services que dans les biens non hors secteur énergie, on voit que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement s'apaisent, là encore en ligne avec ce que je disais tout à l'heure sur les PMI. Donc ça, c'est plutôt positif. Et vous savez, moi j'aime beaucoup regarder pour sortir justement des effets de base. C'est intéressant de regarder ces indicateurs-là en 3 mois sur 3 mois en rythme annualisé. Là, vous enlevez en fait les effets de base. Et là, pour le coup, l'inflation sous-jacente en zone euro, elle ralentit en dessous les 4% pour la première fois depuis décembre 2021. Donc tout ceci, vous allez me dire, c'est bonne nouvelle. Maintenant, la question reste très claire pour la BCE. Elle se pose toujours, est-ce une tendance ou seulement un point exceptionnel? C'est vrai que l'Allemagne, par exemple, a contribué beaucoup à cette baisse avec des rabais sur leur prix de billets de train exceptionnellement au mois de mai. D'habitude, c'est au mois de juin. Donc bon, peut-être qu'au mois de juin, on aura l'effet inverse. Mais toujours est-il, la question fondamentale reste, est-ce que on est toujours en train de regarder devant nous la résorption des chocs d'offres, donc tout ce prix d'énergie, chaîne d'approvisionnement, en face d'une apparition des effets de second tour sur la demande. Et là, c'est le marché de travail qui fait froid. Et là, les salaires au premier trimestre en zone euro, ils étaient en hausse de 4,3% en glissement annuel. Nous aurons encore les salaires au deuxième trimestre avant la réunion de septembre. Et il me semble que pour la BCE, elle ne semble pas convaincue que ça soit assagi de ce côté-là. Et donc, il me semble en fait toujours en vue une remontée des taux de la BCE encore pour deux fois. Alors qu'en face de ça, vous avez la Réserve fédérale qui probablement a terminé son cycle de remontée des taux.
Merci beaucoup, Irina. Irina Topasseri, et la lecture donc de tous ces derniers indicateurs un petit peu partout sur la planète éco. L'idée de prendre le pouls alors que l'agenda de cette semaine est un petit peu moins chargé qu'il ne l'était la semaine dernière. Très bonne journée sur les marchés, Irina, qui nous répondait depuis AXA IM, le marché parisien en ce moment, en tout petit repli de 0,13%, 7191 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Marie-Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Brice Cardy pour le réseau L'Adresse. Bonjour Brice.
Bonjour Cédric.
Votre sentiment sur ces mesures annoncées ces dernières heures, est-ce que...
Alors, donc on débriefe quand même un peu.
Non, mais j'ai envie de dire, je sais pas, je vais résumer à tout ça pour ça. Après, je pense que nos gouvernants ne nous surprennent plus, parce qu'on n'a pas eu de grande surprise. On ne s'attendait pas à grand-chose, donc on n'a rien eu. Donc finalement, voilà.
Vous ne vous attendiez à rien, vous n'avez pas été déçu.
Voilà. Donc on va continuer à faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire notre métier, respecter les fondamentaux, essayer de répondre aux besoins des Français, parce que clairement, à travers les annonces que nous, on a eues dans l'ancien, on peut pas dire. Bah,
c'est là, j'ai envie de dire. Après, on va revenir sur les autres annonces parce qu'en réalité, les non-annonces, c'est ce que disait ce matin Pascal Boulanger chez nous. Revenons d'abord sur effectivement votre secteur, c'est-à-dire l'immobilier existant. On a dit que c'était une crise partout et notamment effectivement dans l'ancien. Est-ce que vous avez pas, enfin, qu'est-ce que vous avez retenu des 6000 annonces qu'on a eues de la part de Matignon en fait?
En fait, rien. Enfin, alors après, on va. Non mais. On va rester positif. Vous savez que j'ai du mal à être autre chose que autrement que d'être positif. Non, les bonnes nouvelles, si on doit parler des bonnes nouvelles, c'est le fameux PTZ dont on avait parlé ici sur ce plateau il y a quelques mois, où en effet ça commençait à devenir intéressant de se...
Ouais, mais enfin, ça vous concerne pas trop, Brice, moi j'ai envie de dire, parce que le PTZ c'est pour le neuf.
Non, PTZ c'est pour l'ancien, vous le rappelez-vous.
Ah oui, mais l'ancien moyennant énormément de rénovation, mais il existe...
Non, pas énormément, ça va vite, hein, c'est 25% de l'acquisition aujourd'hui avec les travaux.
Ah, Sandrine Allonier, je sais qu'elle nous écoute, je pense qu'elle vous dirait c'est beaucoup
Non, le PTZ a tout son sens et c'est bien d'en reparler. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été reconduit pour de longues années, donc c'est intéressant. En effet, on a évité le pire. Il vaut mieux aujourd'hui travailler clairement dans l'ancien que dans le neuf. Donc j'ai beaucoup de compassion justement pour mes confrères dans le neuf. Non, clairement, on repousse le problème. Alors si, pareil, dans les bonnes nouvelles, le taux d'usure qui va être également reconduit, je crois en mars,
la mensualisation.
Clairement, la prochaine date à attendre, c'est le 13 juin, mais pareil, on sait que le Haut Comité de la Stabilité Financière est dirigé par le ministre de l'Économie.
Et la Banque de France.
Donc clairement, on a clairement compris qu'aujourd'hui, on voulait continuer finalement à faire réduire l'inflation et la déflation qui a largement commencé sur l'immobilier. Donc je pense que le 13 juin, il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. Donc quoi dire non.
En fait,
après,
si on revient
sur le PTZ, une fois de plus, là, on ne répond pas aux besoins des Français. Les besoins des Français, ils se sont largement exprimés ces dernières années, notamment encore plus post-confinement, c'est l'envie d'avoir une maison, de réduire finalement aujourd'hui cette envie sur des marchés détendus uniquement dans l'ancien, ça les prive. Il faut rappeler que ces primo-accédants, c'est presque la moitié d'entre eux qui faisaient l'acquisition d'une maison avec les constructions de maisons individuelles dans le neuf. Donc à nous, agents immobiliers, d'être capables de pouvoir finalement récupérer et surtout pouvoir répondre à cette demande. Non, je pense que les vrais perdants, c'est les primo-accédants. Mettre finalement le neuf dans le collectif sur les zones tendues. Mais les primo-accédants, les zones tendues, il faut rappeler que ce sont les zones sur lesquelles les prix sont les plus élevés. Oui. Donc ça ne s'adresse pas forcément aux primo-accédants. Et là où on fait vraiment... Là, je vous assure, vous savez, j'aime bien à chaque fois blaguer, dire jusqu'ici, tout va bien. Là, franchement, je souhaite qu'on soit dans le dur. J'espère qu'on soit vraiment alors au creux, au pic, mais enfin vraiment au plus dur de ce qu'on traverse. C'est très compliqué. Clairement, le marché bancaire est complètement grippé. On voit tous les jours, comme vous le savez, au-delà de ma fonction de président du réseau Adresse, j'ai des agences en propre. Donc je suis confronté aujourd'hui aux bonnes et aux moins bonnes et surtout aux mauvaises nouvelles. On a des refus sur des dossiers bancaires où c'est lunaire. Alors, avec des bons dossiers qui sont lunaires. Enfin c'est donc tiens, un exemple très très concret pour étayer mon propos. Vous le savez, on a une possibilité pour les banques de déroger finalement à la règle du Haut Comité de la Stabilité Financière.
Aux deux règles.
Elles ont une soupape de
20%. Voilà. Bah aujourd'hui la moyenne c'est on est à peine à 14%. Tout est dit.
Oui, oui,
parce que alors, parce qu'elles vont pas, elles ont aucun intérêt.
Justement, on part dans tous les sens là, Brice. Avant de revenir juste sur le crédit IMO, moi il y a une vraie truc. Ce qu'on a compris des annonces de Matignon et du gouvernement, c'est que le but ultime, c'est de faire baisser les prix. Ce sur quoi à peu près tout le monde est d'accord. Et là, moi, la question que je vous pose, c'est n'est-ce pas contre-productif du coup de ne pas soutenir le logement neuf, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, très clairement, hein, avec des mesures structurelles qui manquent à l'appel. Est-ce que non seulement ça va pas renchérir les prix du neuf, mais surtout empêcher une vraie correction dans l'ancien, puisqu'on sait, et c'est une histoire de vase communicant systématiquement, que ceux qui voulaient acheter du neuf se déplacent quasi systématiquement sur l'ancien. Est-ce que ça, vous pensez que ce but de baisse de prix du gouvernement, les mesures qui ont été annoncées hier, peuvent y concourir ou pas?
Moi, je pense qu'en essayant d'éteindre un petit feu, on est en train de déclencher différents feux. Je pense qu'en réglant un petit problème, on est en train finalement d'en créer, d'en semer des plus gros qui vont nous tomber dessus. Alors, je sais pas, voilà, il faudrait avoir une boule de cristal, mais voilà, je pense qu'on est en train de reculer le problème, et le problème, c'est qu'il va être encore plus important à gérer. Clairement, aujourd'hui, vous parliez de l'offre et la demande, les planètes, elles demandent qu'à être alignées. Grâce à des médias comme les vôtres, aujourd'hui, je pense que les vendeurs commencent à comprendre
qu'il faut baisser.
Nous, on a essayé de mettre un maximum d'outils, l'effet ciseau, parce que ce qu'il faut entendre, c'est que les acquéreurs, s'ils écoutent ce qu'on est en train de raconter, ben moi, je suis dans mon canapé, je me dis...
J'attends.
Ben non, faut pas attendre. Si vous êtes, comme beaucoup de Français, en fonction des régions, parfois jusqu'à 70-80%, que vous avez besoin de recourir à un prêt, n'attendez pas, parce que quand vous pensez facialement payer moins cher, vous payez finalement plus cher par le biais du crédit.
Et donc votre perspective de baisse des prix, très concrètement, vous êtes sur quelle ligne au sein du réseau L'Adresse? Vous vous dites quoi? Ça va baisser de combien cette année?
Mais vous vous rappelez, il y a quelques mois, et je crois que c'était il y a quand même pas mal de mois, où je vous avais annoncé mécaniquement, on vous avait apporté un histogramme, on vous avait dit, les Français à date ont perdu, on était à 15%. Aujourd'hui, on est à 25%, on sera à 30% entre la rentrée et l'automne. 30% de capacité d'emprunt de ceux qui doivent recourir à un prêt. Et vous m'aviez dit, un peu tendu une perche, j'étais pas tombé dans le piège. Mais attendez, Brice, vous expliquez quoi? C'est-à-dire qu'en gros, si on est à 20% de capacité d'emprunt de moins pour les Français, c'est-à-dire qu'il faut baisser les prix vont baisser de 20%. Je vous avais dit, c'est vous qui le dites. Mais clairement, aujourd'hui, sur des marchés extrêmement, avec l'effet de plafond de verre, nous, ce qui bouge dans nos agences aujourd'hui, notamment Paris, c'est lorsque les biens sont au moins à 10% moins chers que la même période il y a un an.
Donc on se mouille, aujourd'hui, à la fin de l'année, ça fait quoi les prix à Paris et à l'échelle nationale?
Pareil. Depuis le Covid, depuis le confinement, on n'a jamais vécu un marché aussi disparate, aussi compliqué à analyser. Jusqu'à présent, c'était l'emploi dans les régions, dans les grandes agglos, qui faisait finalement vos revenus faisaient votre capacité d'emprunt. Donc c'était là qu'il y avait le fait plafond de verre. Ouais. Les Français nous ont apporté la preuve qu'ils avaient envie de se mettre au vert et la capacité, en effet, de gagner 20 ou 30 ans, ouais, de travailler à distance. Ça, c'est pas encore complètement réglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des agences. J'ai une agence à Évreux, pour ne pas la nommer. Eh bien, c'est une agence, il y a 10 ans, où il y avait une trentaine, une quarantaine de mandats. Aujourd'hui, quand on a 10 mandats, on est content. Ouais. Et quand on a un mandat qui rentre à peu près au prix, alors c'est quoi le prix? Le prix, c'est celui auquel l'acquéreur se dit, j'y vais et j'ai une banque qui me suit pour 20 ans d'acquisition. Ça bouge. On voit quand même que c'est en train de se tasser. Donc aujourd'hui, non seulement il y a différents marchés avec un S, mais en plus, ça se complique encore, sur ces mêmes secteurs, en fonction de la typologie du bien que vous achetez, il y a encore des disparités. On le disait, le fameux le paquet écologement dont je vous faisais écho, sur en effet l'attrait aujourd'hui des DPE. On a fait un sondage, nous, au sein du réseau Adresse. Aujourd'hui, on arrive par exemple à isopérimètre entre l'envie d'avoir un jardin, un balcon, une terrasse, que de regarder finalement l'importance de l'étiquette énergétique. Donc il n'y a jamais eu aujourd'hui tant d'intérêt pour un professionnel de pouvoir justement éclairer, accompagner, rassurer leurs clients pour mener à terme leur projet.
Vous n'avez pas répondu sur la baisse des prix, Brice.
Non, la baisse des prix, je peux vous le dire. Moi, tiens, avant de parler de la baisse des prix, je vais vous répondre. Avant de parler de baisse des prix,
surtout à prendre Flandre.
Les phénomènes à observer, c'est quoi? C'est d'abord les délais. Les délais, clairement, se rallongent. Ça y est, aujourd'hui, on a un délai moyen qui redépasse les 3 mois, il faut le savoir, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était à pratiquement un mois et demi en fonction des secteurs. Ensuite, c'est le stock. Aujourd'hui, même les endroits, par exemple, Angers, Angers, c'est depuis pratiquement 8 mois, ils ont doublé leur stock. Donc généralement, les phénomènes sont toujours les mêmes. Les délais se rallongent. Si les délais se rallongent, c'est qu'en gros, bah, il y a du stock qui revient et un stock qui part pas. Donc là, le stock qui devient plus important. Et la suite logique, mais c'est là qu'il faut du temps. Et là, j'espère que justement, le temps, aujourd'hui, bah, on va essayer de le rattraper, je l'espère encore, à la rentrée, c'est la capacité à baisser les prix. Angers, aujourd'hui, ça y est, en hypercentre, les prix baissent. Mais Angers découvre quelque chose qui était jusqu'à présent réservé à des grandes agglos comme Paris et d'autres plus grandes villes qu'Angers. Bah, c'est ce qu'on appelle le report de marché. Donc vous avez à Angers des prix qui baissent, mais finalement sur certaines zones périphériques, des prix qui continuent à sensiblement augmenter. Vous avez par exemple la région PACA. La région PACA qui fait aujourd'hui le retour des étrangers avec un euro finalement qui est extrêmement attractif par rapport au dollar. Bah vous avez les Américains qui reviennent sur la Riviera, donc PACA, annoncer en PACA que c'est vraiment compliqué à Paris, et ils vont dire non, on ne parle pas du même marché. Paris, pour être très clair, Paris, en termes de volume de vente, on constate jusqu'à 35-40%. En fonction des zones où on se trouve, de volume de vente en moins si on le compare avec la même période l'an dernier.
Il ne s'est pas mouillé, mais bon.
On n'a toujours pas le chiffre.
On n'a toujours pas le chiffre.
Brice Cardi pour le réseau L'Adresse.
Il reviendra du
coup. Pour un autre prix, un autre jour. Marie-Cœur de Roy, à demain.
À demain.
Pour le Club Immo. On retrouvera Pascal Bonnefille et Pierre Chevillard demain matin. Dans un instant, ce sont nos traders qui osent le marché.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Comme chaque jour à 10h30, deux traders se mettent à votre disposition. Mathieu Céron et Romain Daubry sont avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Merci d'être au rendez-vous. Mathieu depuis Perceval Finance Conseil et Romain depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, comment percevez-vous cette tendance ce matin ?
Bonjour Cédric. Mais pas de tendance ce matin vraiment. On a sauvé les meubles, si je puis dire, la semaine dernière avec une petite alerte en milieu de semaine dernière. Il y a un peu de pression baissière sur le CAC 40 et sur l'Eurostoxx. Ce qu'on constate, c'est que la position vendeuse sur l'Eurostoxx est quasiment soldée à hier. Donc le gros rebond qu'on a connu vendredi dernier était surtout sur fond de rachat de short. La position ouverte nous l'indiquait, et donc c'est effectivement le cas. On a buté sur le futur CAC 40 contre 7287 points. Depuis, on consolide pas mal. En fait, on a pas ou peu de drivers cette semaine. Le gros morceau, c'était les PMI hier. Aujourd'hui, on aura les ventes au détail en Europe. Jeudi, le PIB européen. Autant dire, pas grand-chose pour faire bouger les marchés. C'est plutôt la semaine prochaine que ça va s'animer avec la séquence banque centrale, et puis il y aura l'échéance des marchés dérivés aussi. Pour l'instant, on évolue donc un peu sans tendance. On a préservé l'alerte de court terme pour nous, c'est 7158. On reste acheteur tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là. La résistance majeure, c'est 7287 au-dessus. On a buté contre ce niveau. Donc, on peut alterner achat et vente entre ces deux bornes-là avec deux niveaux intermédiaires à surveiller, 7192, 7232. Si on sort de la zone 7158, 7287, on peut accélérer un peu. On aurait comme résistance majeure 7372 et pourquoi pas des extensions à 7435, ça nous paraît être le maximum dans le contexte actuel. En revanche, si on casse 7158, l'alerte de moyen terme, on l'a positionné sous 7074. Pas vraiment de raison de rompre ce niveau dans l'immédiat. On a des portefeuilles qui sont relativement couverts à équilibrer. On constate un peu plus de complaisance, en revanche, du côté des couvertures sur les indices américains depuis quelques temps. Et on peut dire aussi de ce côté-là qu'on approche de cibles majeures sur des indices comme le Nasdaq, à quelques points près, 14715 points notamment, qui est une grosse résistance. Donc pas de signaux de faiblesse, mais pas de tendance franchement à très court terme.
Voilà donc la vision développée depuis la cellule Info d'Experts par Romain Daubry. Chez Perceval, Mathieu, comment vous positionnez-vous sur effectivement cette tendance qui peine à se décider ?
Oui, tout à fait. Pas de tendance à court terme ni à moyen terme, mais dans une optique longue, on a toujours une tendance de fond qui reste haussière. Mais ce qu'il faut dire, c'est 300 millions d'euros échangés depuis ce matin. Donc on voit qu'il y a très peu d'initiatives. On est sur des volumes de presque deux jours fériés. Normalement, à cette heure-ci, on est plutôt autour de 550-600 millions. Hier, séance calme aussi, et il a fallu attendre l'ISM non manufacturier de 16 heures pour avoir un mouvement. Et on va dire que les marchés, assez logiquement, vignerons sont revenus en arrière suite à une statistique qui n'était pas très bonne. Là, ce matin, on ouvre avec un marché un petit peu faible, et puis tout de suite à 9h, il se met à rebondir d'une manière assez surprenante. Alors, ce qui a fait nos affaires, dans la mesure où on avait tenté un petit achat sur 7170, niveau sur lequel nous sommes placés actuellement pour tenter le rebond, il n'y a pas de tendance ancrée, et les mouvements ne rencontrent pas de contrepartie. On l'a vu vendredi dans la phase de hausse. Alors, Romain évoque des rachats de short, donc on voit bien que ce n'est pas de la conviction. Et on l'a vu hier dans la phase de baisse, avec étonnamment des marchés européens qui ont sous-performé, puisque la statistique était américaine et les indices européens ont sous-performé les marchés américains une fois la publication faite. Donc on travaille les deux sens, donc 7170 à l'achat, une vente plutôt vers 7235-40. Et la chose intéressante, il faut regarder du côté de la volatilité, elle ne cesse de baisser sur le VIX, l'indice de volatilité donc des marchés américains. On est sur un plus bas de 2021, autour, en dessous des 15, à 14,80 précisément. Sur le CAC, on est à environ 12 de volatilité implicite. Donc, il commence à être intéressant d'envisager de monter des stratégies à base d'achat d'options, parce que par exemple sur le VIX, les dernières fois on était sur ces niveaux autour de 15, on est rapidement remonté à 25-30 de volatilité. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de gros catalyseurs dans les heures, les jours à venir, mais en revanche, à horizon quelques mois, il est peut-être intéressant d'acheter par exemple des straddles, d'acheter des strangles. Donc ça, ce sont des stratégies à base d'achat d'options, mais il faut regarder de ce point de vue-là, dans la mesure où, en termes de directionnel sur les indices actions, et notamment européens, il n'y a pas grand-chose à faire.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Mathieu Céron, Perceval Finance Conseil, et Romain Dobry, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30, qui nous fait l'amabilité ce matin de suivre cette séance depuis cette cellule Info d'Experts de Bourse Direct. À tout à l'heure, Romain. Le marché parisien donc en petite baisse de 0,1%, 7193 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Bruno Le Maire s'impatiente sur les prix alimentaires. Le ministre de l'économie a menacé hier sur France 5 de dénoncer publiquement les industriels qui refusent de rouvrir les négociations. Où en sommes-nous ?
C'est un peu le brouillard pour l'instant sur cette histoire de reprise des négociations, en théorie à la mi-juin. Alors hier sur BFM Business, il y avait Michel Biérot, c'est le patron de Lidl. Il nous dit, on arrive à bien discuter avec ceux qui nous fabriquent les marques de distributeurs, qui sont principalement des entreprises françaises de taille moyenne, donc ce ne sont pas en fait les gros industriels dont on parle. Et d'ailleurs, il indique que sur plus de 800 produits MDD, les prix ont baissé. Mais il indiquait que sinon, quand on parle des 75 mastodontes des multinationales qui sont visées par Bruno Le Maire, et bien sur les 75, deux simplement ont pour l'instant repris contact avec lui dans la perspective de rouvrir des discussions. On a posé la même question à Dominique Schelcher, le patron de Système U. Il dit, j'ai vraiment une petite poignée qui a répondu à l'appel, environ 10, et les autres, beaucoup d'entre eux n'ont même carrément pas répondu. Bruno Le Maire, sur la même question, était interrogé hier. Il y a à cette date, deux ou trois ont rouvert des négociations donc sur l'ensemble des 75 multinationales dont il est question. Alors il a clairement à nouveau menacé hier. Il avait déjà menacé. Voilà, il avait menacé avec l'arme fiscale. Je vais vous taxer, je vais vous taxer. Il l'a répété, mais là il a dit écoutez, s'il y en a qui manquent à l'appel, je fais la liste, je fais le mur de la honte à la fin du mois de juin, pour faire une vraie pression. Et alors en face, vous avez les industriels, notamment l'ANIA, le patron de l'ANIA, Jean-Philippe André, qui dit, écoutez, nous à l'ANIA, sur l'industrie alimentaire, on représente 49 des 75 industriels dont il est question, et on en a entre 30 et 35 qui acceptent de rouvrir des négociations. Faites vos jeux maintenant avec les chiffres que je vous ai donnés.
C'est la cacophonie, quoi.
C'est la cacophonie totale. Mais il y a un petit loup dans cette histoire, un aspect technique qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui explique la complexité pour aboutir à une grande reprise des négociations. C'est qu'il y a eu des réunions à Bercy avec tous ces gens. Et on a posé deux conditions pour justifier que des négociations reprennent. Ça veut dire qu'il y a reprise des négociations quand le prix d'achat d'un produit payé par le distributeur, par exemple par Leclerc, a augmenté de plus de 10% le 1er mars. Si c'est un produit qui a augmenté de 8%, on ne reprend pas les négociations.
On n'est pas dans le cadre.
Et donc Lidl dit, avec uniquement cette première condition, alors que les deux conditions se cumulent, vous allez voir la deuxième, nous, chez Lidl, ça élimine 15 à 20%. 15 à 20, plutôt industriels, sur l'ensemble des 75. Chez Lidl, il y a environ 10% de l'offre, qui est constituée par des grandes marques très connues. Et puis après, il y a une deuxième condition, c'est qu'il faut que l'un des intrants qui intervient dans la fabrication de ce produit, alors, je ne sais pas, matière première, énergie, carton, transport, que l'un de ces intrants ait vu son prix baisser d'au moins 20% depuis le 1er mars. Ben vous mettez ces deux conditions réunies.
Et personne ne rentre dans le cadre.
Et ça explique quand même que c'est assez restrictif et qu'il y a pas mal d'industriels qui, au nom de ces conditions.
Disent, moi, je ne suis pas concerné.
Eh bien, on va vous expliquer que, autant on a vu une baisse de prix d'un des intrants, mais c'était au mois de février et au mois de mars, et que depuis le 1er mars, on n'a pas vu ces fameux 20%. Enfin, voilà, il y aura toutes les raisons, en fait. Et là, ce sont des aspects techniques. Ben, voilà, c'est quand même le résultat d'une négociation, ou en tout cas d'un accord qui a été conclu sous l'égide de Bercy. Qui fait qu'il ne faut pas rêver à l'idée du grand soir, de la grande reprise des discussions avec tout le monde.
Hein. Malgré tout, il y a une question autour de ce name and shame.
Oui.
Est-ce que ça fonctionne ?
Alors là, ça va dépendre du consommateur. C'est un peu nouveau cette fois-ci, parce qu'on pratique le name and shame déjà, mais objectivement, sur des sujets qui ne mobilisent pas franchement l'opinion publique. Là, si on le fait sur les produits...
On l'avait vu sur les délais de paiement, par exemple.
Alors on l'a fait sur les délais de paiement. On l'a fait sur ceux qui ne respectent pas les obligations d'égalité homme-femme. Enfin, vous ne mobilisez pas l'opinion avec ce name and shame-là. Les entreprises citées ne sont jamais très heureuses de l'être. Parce que c'est quand même leur réputation. Mais là, c'est vraiment, effectivement, on touche le très grand public. C'est vraiment, on est directement en prise immédiate et directe.
On est dans le caddie.
Avec le consommateur, on est dans le caddie. Donc, il s'agira de savoir si le consommateur qui voit que telle marque a reçu un bonnet d'âne va décider de renoncer à acheter ce produit. Il en aura la possibilité. Ouais. Alors, il ne faut pas se leurrer. Ce name and shame peut inciter des entreprises très franco-françaises qui dépendent vraiment du marché français peut-être à bouger plus que les autres. Enfin, quand vous vous appelez Nestlé ou Coca, que la France c'est 1 à 3% de vos ventes, ce n'est pas le name and shame de Bercy qui va vous terroriser. Il y a un point qui est soulevé Emmanuel Combes intéressant sur ce name and shame dans cette situation-là, c'est que c'est quand même normalement une pratique qui correspond à une structure juridique. Enfin, alors que, parce que normalement, il y a name and shame quand l'entreprise a commis une infraction. Le fait de refuser d'aller ouvrir des négociations, c'est pas une infraction. Donc Bruno Le Maire sort un peu le name and shame de son cadre juridique. Mais sinon, aujourd'hui, on n'a jamais vu d'effet absolument dévastateur avec le name and shame tel qu'il a pu être pratiqué. On verra hein, si le consommateur, parce que c'est lui le patron, décide de renoncer à un produit parce qu'il a vu le nom de ce produit sur le mur de la honte de Bruno Le Maire.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien lui reste pour le moment en petite baisse de 0,07%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Goldman Sachs nous propose depuis quelque temps un nouvel acronyme, TARA, qui remplace TINA, que vous avez bien connu. There is no alternative. Eh bien, TARA signifie There are reasonable alternatives. Il y a des alternatives raisonnables, puisque les rendements obligataires peuvent apparaître plus attractifs. Et pour en parler, on accueille Éléonore Bunel. Bonjour, Éléonore.
Bonjour, Cédric.
Merci d'être avec nous, responsable de la gestion obligataire de Lazard Frères Gestion. On va peut-être commencer par, parce qu'on le sait, hein, il y a deux catégories, le souverain, le corporate. Mmh. Commençons par nos grands fonds, nos grands emprunts souverains. Comment on appréhende le contexte actuel justement sur ces marchés-là ?
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux qui ont fortement remonté hein, depuis maintenant, je dirais, l'année dernière, hein, avec cette forte remontée des taux
notamment
d'intérêt.
Notamment la Fed, hein, les États-Unis.
Notamment la Fed, la BCE, etc. On a des taux qui sont maintenant plus élevés. Hein. On était resté dans des taux négatifs pendant très longtemps, notamment en Europe. Donc aujourd'hui, quand on regarde un petit peu cette photo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des taux qui sont élevés. Le marché anticipe peut-être encore une hausse de taux de la Fed, hein, probablement juin-juillet, juillet. On pense, nous, qu'on arrive peut-être à la fin de ce cycle de hausse de taux. Pourquoi ? Parce qu'on a des indicateurs aujourd'hui qui nous laissent penser qu'une récession approche, hein, probablement pour cet été, donc au troisième trimestre. Alors, qu'est-ce qui nous laisse penser ça ? C'est à la fois des indicateurs comme les permis de construire, qui sont en baisse je dirais jusqu'à 36% depuis leur point haut, une remontée, et ça on le voit bien depuis maintenant fin d'année dernière, des inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça c'est un indicateur qui nous laisse penser qu'on s'approche d'une récession. On a également des profits qui commencent à baisser hein, depuis maintenant le deuxième trimestre de 2022. Mmh. Le crédit bancaire aussi aux entreprises qui est en repli, en tendance baissière du moins. Et voilà, donc pour nous, c'est vraiment des indicateurs qui nous laissent penser que cette récession est probablement imminente en réalité, et que donc ce cycle de hausse de taux, voilà, est probablement sur la fin.
Est-ce que l'Europe est au même moment de ce cycle entre guillemets, parce qu'on sait qu'on a commencé plus tard et oui, pour le vrai. Moment on est monté moins haut.
C'est vrai. Alors sur l'Europe, nous on attend encore peut-être deux hausses probablement, hein, ce qu'anticipe le marché en réalité. On a vu récemment sur l'Europe des données vraiment mitigées sur l'activité économique. On voit notamment les PMI des services hier qui étaient révisés à la baisse. Donc on voit que cette amélioration, elle est en train de se casser un petit peu. Le PMI manufacturé qui est en net repli. Et puis on a cette semaine, on attend la première, enfin la deuxième estimation du PIB de la zone euro. On a eu déjà un petit avant-goût avec la deuxième estimation du PIB allemand qui n'était pas bon. Et clairement, pour nous, voilà, on va attendre ça cette semaine. Deux autres choses sur les créations d'emplois aussi en Allemagne. Les dernières publications n'étaient pas bonnes, création très faible. Et puis la consommation des biens des ménages en France qui est au plus bas depuis 2014. Donc attention, on a également les données bancaires, les données sur le crédit de la BCE qui sont sorties. On a une nette décélération des crédits aux ménages, aux entreprises. C'est pas bon pour la croissance en Europe. Tout ce qui est prévu par le consensus, c'est 0,6 pour 2023. Nous, ça nous semble quand même un petit peu optimiste.
Certains commencent à redouter une erreur de politique monétaire en se disant tant la dernière de la Fed que les deux dernières de la BCE. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous imaginez ou vous dites pour le moment, on n'a pas les prémices de ces craintes qui se font jour?
Honnêtement, je pense que Monsieur Powell, il est assez clair. Il a déjà parlé de pause récemment, donc on verra.
Il drive bien son truc.
On verra à la réunion du mois de juin. Hein, mais nous, on penche plus pour une pause, effectivement.
Voilà donc pour notre grand souverain. Juste rien à dire sur la France et Standard & Poor's.
Pas d'impact.
Non even, pas d'impact. On est d'accord. Le corporate maintenant. Parce que ça nourrit aussi, bien évidemment, votre fonds. Enfin, comment est-ce que vous percevez les entreprises? Vous nous avez dit un mot des crédits bancaires, mais voilà, qu'est-ce que...
En fait, quand on regarde l'univers du corporate, comme vous le dites, y a les corporates, donc les entreprises, et aussi les banques, évidemment. Donc, quand on regarde les fondamentaux de ces deux catégories, que ce soit les banques ou les corporates, c'est vrai que les fondamentaux sont plutôt bien orientés. Les banques, on a eu des résultats très bons l'année dernière, et puis déjà le premier trimestre 2023. On a des revenus qui ont augmenté avec cette hausse des taux d'intérêt. Sur les entreprises, on est un petit peu dans la même situation. On a des leviers qui ont fortement baissé depuis la crise Covid. Alors oui, ils vont probablement remonter parce qu'on va avoir une baisse de la demande et donc une contraction des EBITDA. Ce qui est à noter, c'est que c'est vrai que si on attend une récession, et c'est notre scénario, évidemment, les fondamentaux vont se détériorer sur les corporates. Après, dans l'univers corporate, quand vous achetez des obligations crédit, ce qu'on appelle crédit, faut pas regarder que le fondamental. Il y a la valorisation, évidemment, de la classe d'actifs, il y a les facteurs techniques. Les valorisations, aujourd'hui, c'est vrai, quand on prend le rendement total, il est intéressant, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. On était sur des rendements proches de zéro sur ce qui est bien noté investment grade. Donc aujourd'hui, on a ce portage qui est quand même assez sympathique, j'ai envie de dire, et qui va nous permettre de nous protéger aussi contre éventuellement...
C'est la vraie stratégie du moment quand on est sur de l'obligataire, c'est de faire du portage.
Voilà, le portage. Après, attention, il faut distinguer investment grade et high yield. Sur le high yield, on voit aujourd'hui on a eu une très belle performance depuis le début de l'année, mais on voit que les flux sont quand même assez timides sur la classe d'actifs, alors que ils sont très forts sur l'investment grade. Sur l'investment grade, depuis le début de l'année, on a 11 milliards qui rentrent de dollars.
Donc
sur
c'est
les vrais
bond picking, quoi.
C'est des gens qui ont envie de prendre du portage et qui n'ont pas envie de s'exposer à une classe d'actifs qui va peut-être plus souffrir, parce que le high yield va plus souffrir en cas de récession. Si on a une récession, on a des primes de risque qui vont s'écarter vraiment. Donc probablement qu'on retournera sur des niveaux de 2022, octobre 2022. Donc évidemment, vous allez générer une performance négative sur les spreads de crédit, en fait. Donc vraiment différencier high yield et investment grade, se concentrer peut-être plus sur de l'investment grade, rester prudent surtout.
Mais aujourd'hui, il y a de la place dans une gestion diversifiée pour avoir cette poche obligataire qui revient via le portage, notamment, on l'aura bien compris, dans une gestion équilibrée.
Il faut être sélectif. Ouais. Aller sur de l'investment grade. Si vous allez sur du high yield, peut-être prendre des choses un petit peu plus ce qu'on appelle les double B, c'est dans la catégorie haut de panier, j'ai envie de dire, du high yield. Et puis oui, rester un biais évidemment long duration, notamment sur les US. Si on s'attend à une récession venant des US, faut ajouter de la duration dans les portefeuilles. Donc vraiment avoir un portefeuille défensif. Si vous voulez du crédit, aller sur de l'investment grade, long duration, et puis surtout, vous pouvez avoir du cash en portefeuille, puisque aujourd'hui, le cash, hein, faut pas l'oublier, c'est 3% de portage. On n'avait pas vu ça depuis très 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 longtemps. Donc vous êtes payé pour attendre, en fait, cette récession, et puis ce mouvement d'écartement de prime de risque qu'on peut avoir. Après, attention, il faut pouvoir se repositionner. Si on rentre dans cette récession, il faut repositionner le portefeuille et se remettre long crédit, toute classe d'actifs confondues.
Il y a des alternatives raisonnables sur ce marché. Merci beaucoup, Éléonore Bunuel, donc d'être passée nous voir, responsable de la gestion obligataire de Lazard Frères Gestion. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés actions.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Le marché parisien qui se montre assez hésitant ce matin avec une tendance plutôt baissière, mais bon, rien d'affirmé, moins 0,23, 7184 points, c'est d'ailleurs à peu près la même chose ailleurs en Europe. Les plus fortes variations à la baisse du Total, du Capgemini et du Stellantis, quelques hausses tout de même avec Publicis, Pernod ou Veolia. L'eurodoll est à 1,0704.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Vous le savez, pour de nombreux d'entre vous, la campagne déclarative est terminée. Il reste certains retardataires qui ont encore quelques heures. Et pour parler de tout ça, Caroline Mignaval est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale d'Odo BHF. D'abord, on rappelle rapidement les échéances fiscales, parce qu'il y avait certes cette déclaration, mais c'est pas tout. Le calendrier fiscal, il est bien plus large.
Tout à fait. Alors, pour les deux premières zones, c'est-à-dire pour les résidents des départements numéro 1 à 54, ainsi que pour les non-résidents et pour les déclarations papier, la campagne déclarative 2023 est clôturée.
C'est fini.
C'est fini. En revanche, pour la troisième zone, donc pour les départements numéro 55 et au-delà, le service de déclaration en ligne reste officiellement ouvert, et cela jusqu'au 8 juin minuit.
Donc, il faut se presser si vous n'avez pas encore satisfait à vos obligations citoyennes. Qu'est-ce qui se passe si on est en retard ou, allez, au pire, si on a carrément oublié? Quelqu'un qui n'écouterait pas BFM Business, par exemple.
Alors, en cas d'oubli, le service de déclaration en ligne reste tout de même ouvert jusqu'au 30 juin. La pénalité sera une majoration de 10% de l'impôt dû, sauf à pouvoir justifier ce retard ou cet oubli. Le principe qui prévaut toujours à Bercy étant celui de la bonne foi.
Bien sûr. C'est quoi un retard qui sera justifié?
Si
on a eu un décès, par exemple, dans la famille.
S'il y a des circonstances particulières.
C'est pas juste, j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture.
Exactement.
Hein. Bon, on est d'accord.
Et passer cette date du 30 juin, le service de déclaration en ligne sera fermé et vous devrez alors agir via votre messagerie sécurisée en ligne ou en envoyant une déclaration papier à votre centre des impôts. Mais les pénalités seront plus importantes.
Bon, on n'a pas fait d'oubli, on n'a pas eu... Voilà, mais... On a déclaré, et puis quelques jours après, en réfléchissant ou en retrouvant un papier, on s'aperçoit qu'on a fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, vous pourrez toujours modifier votre déclaration a posteriori, à compter de l'ouverture du service de correction en ligne début août. Et ces éventuelles modifications n'entraîneront pas de pénalité. Elles généreront simplement l'édition d'un nouvel avis d'imposition.
D'accord.
Donc, pensez bien à valider et signer votre déclaration d'ici le 8 juin, puisque vous pourrez toujours revenir dessus après.
Oui. Donc, et notamment si on ne retrouve pas un papier qu'on sait qu'on a parce qu'on est mal organisé, il n'y a pas de panique, on signe et on revient là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut modifier justement dans la déclaration ?
Alors en ligne, vous pourrez modifier la quasi-totalité des informations, comme vos revenus, vos charges, les informations servant au calcul de vos réductions ou crédits d'impôt, celles servant au calcul de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, si vous êtes redevable, vos personnes à charge, etc. Et vous pourrez également, si besoin, ajouter ou supprimer des déclarations annexes.
En revanche, vous nous dites la quasi-totalité, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qu'on ne pourra pas modifier ?
Oui, tout à fait. Ce sont toutes les informations relatives à votre état civil ou à un changement de situation familiale, comme un mariage, un PACS, un divorce ou un décès, ou un changement de résidence, par exemple.
Donc là, on termine au mois de juin. À partir de quel moment on peut commencer à corriger ?
Dès que vous aurez reçu vos avis d'imposition, donc pour la majorité des contribuables, ils seront disponibles en ligne fin juillet, début août. Et a priori, la totalité des avis, y compris papier, auront été envoyés d'ici fin août.
Et ça, on peut corriger jusqu'à quand ?
Donc ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, corriger à compter du service, de l'ouverture du service de correction en ligne début août.
D'accord.
Pour ce faire, il suffira de se rendre sur votre espace personnel, de cliquer sur « Accéder à ma correction en ligne », puis de cliquer sur « Corriger ».
Et ça, on peut le faire jusque ?
Alors, ce service de correction en ligne clôturera fin décembre 2023.
D'accord.
Donc, en résumé, il ouvrira début août, il clôturera fin décembre. Donc, vous aurez 5 mois pour corriger votre déclaration.
Bon, et là encore, après, qu'est-ce qui se passe ?
Alors après, le service de correction en ligne sera clôturé, donc il faudra agir par voie de réclamation. Et vous aurez alors jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Donc par exemple, cette année, vous avez déclaré vos revenus perçus en 2022. Donc pour revenir sur vos déclarations de cette année, vous pourrez agir jusqu'au 31 décembre 2025. 2022 plus 3 ans.
Quand on déclare sur papier, comment on fait pour corriger ? On rattrape la copie, on efface, on gomme, on...
Alors, vous pourrez toujours déposer une réclamation papier à votre centre des impôts. Il faudra simplement bien penser à joindre tous les justificatifs utiles.
Ouais. Alors, vous nous avez déclaré, effectivement, qu'on avait 3 ans et quelques pour... Ok, mais pendant ce temps-là, à Bercy, enfin, dans les centres des impôts, on travaille aussi,
oui.
Et on vérifie. Qu'est-ce qui se passe si finalement une erreur est détectée avant même qu'on ait eu le temps de la corriger ? Enfin voilà.
Alors en matière d'impôt sur le revenu, le délai de prescription fiscale est en principe de 3 ans.
Ben oui.
En matière d'impôt sur la fortune immobilière, si vous avez sous-évalué un bien immobilier, le délai est le même. En revanche, si vous avez omis de déclarer un bien immobilier ou carrément si vous avez omis de déclarer l'IFI, le délai passe alors à 6 ans. Et dans le pire des cas, qui est celui de manœuvres frauduleuses ou de comptes dissimulés à l'étranger, le délai de prescription peut aller jusqu'à 10 ans. Mais dans tous les cas, les contribuables peuvent proactivement rectifier leur déclaration. Cela leur permettra notamment d'arguer la bonne foi pour espérer un allègement des éventuelles pénalités encourues.
Oui.
C'est le fameux droit à l'erreur.
Oui. On rappelle d'ailleurs, pour terminer, que l'essentiel, c'est d'être à l'initiative de la démarche. Quoi. C'est-à-dire
Exactement.
Que plus on est proactif et moins on se fait attraper par le gendarme, mieux ça se passe avec Bercy.
Tout à fait.
On est d'accord. Merci beaucoup, Caroline. Caroline Miaval, donc, pour l'ingénierie patrimoniale d'Odo BHF qui nous accompagnait ce matin. Et donc, pour les tout derniers, il reste encore quelques heures pour en finir avec cette campagne déclarative 2023. À très bientôt.
Merci.
Le marché parisien, moins 0,23% en file dans un instant sur les marchés.